Radio Prague, les informations. Bonjour, le cannabis thérapeutique sera plus accessible et abordable en République tchèque à partir de cet été. Sirènes et cloches retentiront jeudi midi dans toute la République tchèque suite à la fusillade meurtrière de la semaine dernière. Et puis enfin, virus Ebola, la République tchèque va envoyer 10 millions de couronnes supplémentaires en Afrique de l'Ouest. Comme annoncé en titre, le cannabis médical sera très probablement plus facile d'accès en République tchèque à compter de cet été. Ce mercredi, le ministre de la Santé, Svatopluk Němeček, a indiqué qu'une nouvelle réglementation devrait entrer en vigueur en juin. Selon celle-ci, le spectre des différentes sortes de cannabis autorisées devrait être élargi et la quantité limite pour les patients passerait de 30 à 180 grammes. La loi autorisant l'usage thérapeutique du cannabis est, rappelons-le, entrée en vigueur en avril 2013 en République tchèque. Celle-ci rejoignant le cercle fermé des pays ayant franchi le pas en Europe. Avant cela, aucune personne malade susceptible d'atténuer ses souffrances avec cette substance ne pouvait se procurer de médicaments. Ces achats sont conditionnés par la délivrance préalable d'une ordonnance électronique pour empêcher les abus. Comme cela avait été envisagé en début de semaine, les sirènes et les cloches des églises retentiront bien dans toute la République tchèque ce jeudi sur le coup de midi en hommage aux 8 personnes victimes de la fusillade de mardi dernier dans un restaurant d'Uherský Brod, c'est en Moravie du Sud. La décision a été prise lors du Conseil des ministres ce mercredi. Sirènes et cloches sonneront symboliquement durant 2 minutes et 20 secondes. Pour rappel, 8 personnes, 7 hommes et une femme ont été tués par un homme qui a ouvert le feu dans un restaurant de la ville pour une raison toujours inconnue malgré l'enquête en cours. Après son geste, l'auteur de la fusillade, qui était âgé de 63 ans, a retourné l'arme contre lui et s'est donné la mort. La République tchèque s'apprête à envoyer une nouvelle aide humanitaire d'un montant de 10 millions de couronnes, soit près de 365 000 euros dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Touché par les épidémies d'Ebola, la décision a été prise par le Conseil des ministres ce mercredi. La moitié de cette somme sera versée à l'OSN pour lutter contre le virus et l'autre à l'UNICEF pour financer les achats de médicaments, de matériel sanitaire ou encore l'aide aux familles et aux orphelins. Le ministre des Affaires étrangères, Lubomir Zaorálek, a expliqué que les trois pays les plus touchés par la maladie, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée avait besoin d'une aide d'urgence. Le chef de la diplomatie a déclaré supposer qu'il ne s'agirait pas de la dernière aide de la République tchèque. 15 millions supplémentaires pourraient ainsi être débloqués. BMW envisage de construire un grand centre logistique en République tchèque plutôt qu'en Bavière. Il s'agit plus précisément d'une menace que le constructeur automobile allemand pourrait mettre à exécution s'il n'obtient pas le terrain d'une cinquantaine d'hectares qu'il souhaite dans les environs de Ratisbonne, une ville proche de la frontière avec la République tchèque. L'information a été publiée par le quotidien Die Welt. Selon le journal, 2000 emplois sont en jeu. Cette année, BMW, qui siège à Munich, prévoit de créer quelques 5000 emplois, dont 2000 à Niedertraubling, à proximité donc de Ratisbonne. Toutefois, le terrain en question fait l'objet d'un litige entre un agriculteur qui le cultive depuis de nombreuses années et une riche famille princière propriétaire. On passe au sport. Le match entre le Viktoria Plzeň et le Slavia Prague, qui figure au programme de la 18e journée de la Sinot Liga, le championnat de République tchèque de football, et devait être disputé ce samedi soir, a été reporté, et ce en raison d'une maladie infectieuse dont souffrent plusieurs joueurs de Plzeň. La décision a été prise ce mercredi par les dirigeants de la Sinot Liga, et ce sur la base d'une prescription de la station hygiénique de la région de Plzeň. La nature de la maladie n'a pas été précisé, leader du championnat, le Viktoria Plzeň possède 3 points d'avance sur son premier poursuivant, le Sparta Prague. Tous les billets avaient été vendus pour ce match contre le Slavia qui devait être retransmis par la télévision tchèque. On termine avec un mot de météo. Malgré la fête des Casimirs, ce ne sera pas encore le printemps en République tchèque ce jeudi. comme cela l'était autrefois tous les jours sur l'île aux enfants et du célèbre monstre gentil Casimir que les moins de 35 ans ne peuvent pas connaître. Néanmoins, il ne dépend que de nous que la journée reste un temps de rire et de chant, et ce malgré un temps très variable où que vous soyez, c'est-à-dire en Bohême, en Moravie ou en Silésie, il tombe quelques flocons de neige à partir de 500 mètres d'altitude et les températures varient entre 4 et 8 degrés. Pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. J'ai eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme dont nous vous souhaitons une excellente écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue chers amis à l'écoute de ce magazine consacré à l'actualité tchèque de Radio Prague. Merci tout d'abord à Guillaume pour son bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, les premiers Ukrainiens d'origine tchèque sont bien arrivés en République tchèque mardi soir. Nous allons nous pencher sur le sujet dans quelques instants. Par la suite, nous nous intéresserons à la publication par le Centre Pragois d'intégration de la troisième brochure destinée aux étrangers qui vivent en République tchèque mais qui ne sont pas des ressortissants de l'Union européenne. Ce sera dans quelques minutes en compagnie de Lucia Drexelova. Et en troisième partie de notre émission, nous retrouverons la rubrique Chapitre de l'Histoire. C'est Pierre Maignan qui vous présentera la première partie de l'entretien réalisé avec l'historien Antoine Marès à propos de la biographie qu'il a consacrée au troisième président de la République tchécoslovaque Edvard Beneš. Vous êtes bien sûr Radio Prague, excellente écoute à toutes et à tous. Après un voyage en autobus qui a duré près de deux jours, les premiers Ukrainiens d'origine tchèque sont bien arrivés à Prague mardi soir. Ce groupe de 46 personnes, dont 15 enfants, avait quitté lundi la ville de Novorodivka, dans le sud-est de l'Ukraine. Promesse donc tenue de la part des autorités tchèques qui se sont engagées à accueillir en tout environ 145 Ukrainiens d'origine tchèque qui souhaitent rentrer dans leur pays d'origine en raison du conflit en Ukraine. Dans le cadre d'une procédure accélérée, le consulat tchèque provisoire, situé dans la ville ukrainienne d'Odessa, a délivré à ses candidats au départ des permis de séjour permanents. En raison de la situation de crise en Ukraine, les autorités tchèques ont ainsi permis le premier rapatriement d'Ukrainiens d'origine tchèque. Directeur du département de la politique migratoire et d'asile du ministère de l'Intérieur, Tomáš Hajšman, a détaillé cette opération.
Ce groupe de personnes a manifesté sa volonté d'être rapatrié en République tchèque de sa propre initiative au cours de l'année 2014. Il s'agit de la première phase de rapatriement qui concerne toute l'Ukraine. Du point de vue des risques et des dangers qui pèsent sur les habitants en Ukraine, nous avons choisi de rapatrier les personnes de l'est de l'Ukraine qui sont les plus menacées, c'est-à-dire les personnes qui proviennent des régions de Donetsk, de Luhansk, de Mariupol et donc aussi de la ville de Novorodkivka. Les habitants de ces régions de l'est de l'Ukraine sont les plus menacés.
Ce premier voyage est donc né de la propre initiative de familles qui avaient récemment obtenu leur carte de résident permanent, mais qui ne voulaient pas attendre la mi-mars pour qu'un avion du gouvernement les rapatrie en République tchèque. Malgré une fatigue palpable qui se lisait sur leur visage, la plupart des personnes avaient le sourire et remerciaient ceux qui étaient présents pour les accueillir. Lenka Chaloupnikova est l'une de ces arrivantes. Nous l'écoutons.
Bonjour ou bien bonsoir, nous sommes très contents d'être arrivés chez vous. Nous sommes heureux que vous nous accueilliez. Le voyage sur les routes ukrainiennes a été difficile, mais celui en République tchèque a été bien plus agréable.
Les rapatriés ont passé leur première nuit en République tchèque dans la ville de Červená nad Vltavou, au sud de la Bohême. Mis à part le droit de vote, les nouveaux arrivants sont désormais détenteurs des mêmes droits que les Tchèques. Le gouvernement a prévu pour leur venir en aide d'autres mesures que présente Tomáš Hajšman du ministère de l'Intérieur.
La première chose est que l'État a régularisé ce groupe de personnes d'un point de vue administratif, ce qui veut dire que ces personnes possèdent un des statuts les plus avantageux pour les étrangers, à savoir la carte de résidence permanente. D'un autre côté, les nouveaux arrivés seront temporairement hébergés à l'hôtel Vltava, qui appartient au ministère de l'Intérieur. Il y a tout un programme pour les intégrer à la société. C'est-à-dire qu'au cours de ce séjour de 6 mois dans l'hôtel, avec possibilité de prolongation dans certains cas individuels, les personnes bénéficieront d'une assistance de base qui se manifestera sous forme de cours de langue, ainsi que d'autres dispositifs d'adaptation à la société tchèque. Par la suite, une autre aide essentielle leur sera fournie pour trouver un logement, un domicile fixe et un emploi sur le territoire tchèque.
À la question de savoir quel est le niveau de tchèque des rapatriés qui habitaient jusqu'alors la ville de Novorodkivka, initialement Tchekohrad, fondée par des immigrés tchèques en 1869, Tomáš Hajšman a indiqué que la génération la plus ancienne parle encore couramment cette langue et que les plus jeunes ont fait preuve de leur motivation pour l'apprendre. Dans le but de faciliter l'intégration des rapatriés au sein de la société tchèque, la charité catholique tchèque, qui participe depuis le début à ce projet, est l'un des principaux partenaires du ministère de l'Intérieur. Malgré le fait que les demandes de rapatriement de 70 autres personnes vivant en Ukraine ont été refusées, un deuxième groupe d'Ukrainiens d'origine tchèque composé d'environ 40 personnes devrait arriver le 15 mars prochain. Cette année, la République tchèque prévoit ainsi d'intégrer au pays entre 300 et 350 personnes. Précisons que le gouvernement a récemment débloqué une somme de 66 millions de couronnes, soit près de 2,4 millions d'euros, pour accueillir des étrangers d'origine tchèque du monde entier. Le Centre Pragois d'intégration a publié une troisième mise à jour de sa brochure destinée aux migrants des pays tiers, ceux qui ne sont pas ressortissants des pays de l'Union européenne qui vivent à Prague. Intitulé « À Prague, nous sommes chez nous », le document vise à aider les étrangers dans leur interaction quotidienne avec l'administration tchèque en présentant par exemple le système de sécurité sociale ainsi que les modalités du parking différentes selon les quartiers. Plus de détails sur le sujet avec Lucia Drexelova.
Le Centre Pragois d'intégration a été créé en 2012 par la municipalité de la capitale pour coordonner les projets d'intégration. Il propose des services aux étrangers des pays tiers. Ils peuvent obtenir gratuitement des conseils en matière sociale, juridique et économique, ainsi que des cours de tchèque. Le centre fait partie d'un réseau de 13 centres à vocation similaire situés dans les régions et créé en vertu de la stratégie nationale pour l'intégration des étrangers. À Prague même, plusieurs bureaux sont à disposition des migrants, comme le précise l'une des responsables du centre d'intégration, Pavla Jenková.
En fondant ces bureaux, nous avons voulu assurer leur accessibilité spatiale et temporelle pour répondre aux besoins des étrangers. Le centre principal est au centre-ville du 2e arrondissement de Prague. Les filiales détachées se trouvent dans 4 autres arrondissements sélectionnés en fonction de la concentration d'étrangers. Un bureau se trouve directement au marché vietnamien de Sapa.
Le livret, publié pour la troisième fois consécutive et intitulé « À Prague, nous sommes chez nous », est destiné aux migrants, mais également à disposition des associations et des fonctionnaires de l'administration publique amenés à interagir avec des personnes d'origine étrangère dans le cadre de leur travail. Au cœur de cette brochure, on trouve des informations pratiques. Il a connu certaines améliorations par rapport aux éditions précédentes, car l'équipe du centre d'intégration complète la brochure sur la base des retours de ses usagers.
Le livret est conçu comme un guide des informations de base et des contacts des organisations, des bureaux, des administrations pour faciliter l'orientation des étrangers dans le système tchèque qui est parfois compliqué même pour les autochtones. La troisième mise à jour de cette brochure est plus riche en informations que nous nous efforçons de présenter de manière intelligible pour les étrangers. Par exemple, nous avons ajouté un chapitre sur les modalités de parking qui sont différentes selon les quartiers, car nous avons constaté que les étrangers ont beaucoup de difficultés à comprendre ce système des zones de parking.
Le livret est publié en russe, en mongol, en vietnamien, en ukrainien, en anglais et en tchèque pour toucher les locuteurs les plus représentés parmi les migrants à Prague. Les clients francophones du centre sont relativement peu nombreux et c'est pour des raisons budgétaires que le livret n'a pas été traduit dans leur langue. Le guide existe également en version tchèque pour être accessible aux fonctionnaires qui puisent des réponses aux questions qui peuvent leur être posées. Le centre d'intégration organise également des conférences et des projets qui visent à faire connaître la communauté des migrants à la population locale tchèque. Pavla Jenková se félicite du fait que les attaques verbales racistes ou xénophobes ont jusqu'alors épargné son institution.
Je dois dire que jusqu'à présent, les vagues de haine sur les réseaux sociaux nous ont ignorés et nous en sommes très reconnaissants. En même temps, nous constatons que la tension avec laquelle travaillent certains experts et fonctionnaires dans ce domaine s'est accrue. Pour cela, le 10 mars, nous animons sur ce sujet une plateforme régionale, lieu de rencontre régulière entre les acteurs de l'intégration des étrangers. Nous allons réfléchir sur les manières de traiter la haine ou la xénophobie vis-à-vis des étrangers et sur la façon d'éviter de voir apparaître de nouveaux stéréotypes.
Dans ses activités, le Centre Pragois d'intégration est soutenu par le Fonds européen pour l'intégration de ressortissants des pays tiers, par le ministère de l'Intérieur et par le budget de la mairie de Prague. Certains projets sont également financés par les dons des particuliers.
L'historien Antoine Marès était présent à Prague en février pour présenter la biographie qu'il consacre à l'un des hommes d'État les plus importants de l'histoire tchèque, Edvard Beneš, ouvrage publié récemment aux éditions Perrin. En marge de sa visite, le directeur du Centre d'histoire de l'Europe centrale à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a accordé à Pierre Mignan un long entretien dont voici la première partie où il est question de la jeunesse d'Edvard Beneš, de son rôle dans l'indépendance de la Tchécoslovaquie et tout d'abord de sa francophilie.
Chapitre de l'histoire.
Beneš n'a jamais expliqué pourquoi il était attiré comme ça par la France. C'est le fils d'un paysan qui, c'est assez caractéristique de la situation des Tchèques au début du 20e, enfin à la fin du 19e siècle, est monté par l'école. Quand il est adolescent, c'est un jeune révolté. C'est un jeune révolté qui va avoir de la sympathie pour les idées de gauche. Et bien évidemment, il a l'ambition, il a une grande curiosité. Je pense que c'est la curiosité qui a été le moteur de cette volonté de connaître la France. Et quand on est de gauche, la France, c'est la Révolution française. L'Angleterre, ça incarne le capitalisme. Alors il ira en Angleterre parce qu'il veut connaître la misère ouvrière anglaise. Il ira en Allemagne également, entre 1905 et 1908. Donc il va en France. Il va en France et où arrive-t-il en France ? Il habite dans le quartier latin. Il tombe au milieu des Russes qui sont agités en 1905 par la révolution russe. Il est le correspondant du journal social-démocrate tchèque, le Pravo Lido, et au fond, il peigne dans ce milieu de gauche. Mais ce qui est intéressant, c'est, alors il va être fasciné par la France, immédiatement, il fait de la France son modèle. Ça commence là, il va soutenir une thèse à Dijon, parce que le système était beaucoup plus souple à l'époque qu'aujourd'hui. Il soutient une thèse sur la question des nationalités en 1908. Et là, il adopte le point de vue social-démocrate classique. Le problème des nationalités en Autriche-Hongrie sera résolu par la démocratisation. Il n'est pas du tout hostile à l'Autriche-Hongrie. Thèse de Masaryk aussi, jusqu'en 1914. Et ensuite, il va s'appliquer dans toute sa carrière. Alors, il se trouve qu'il retourne en France en exil en septembre 1915, il y reste jusqu'en septembre 1919, et là c'est une réussite extraordinaire, bon. Et il va être fasciné par le modèle français. Pendant tout l'entre-deux-guerres, il souhaite s'inspirer du modèle français. À tel point, une anecdote, en 1919, à la charnière de 1919-1920, il rencontre un émissaire du gouvernement français, au ministère des Affaires étrangères, et il lui dit qu'il va adopter le français comme langue de travail du ministère des Affaires étrangères. Ça illustre bien son imprégnation. Et cette imprégnation est si forte qu'il ne voudra pas reconnaître en 1938, jusqu'à septembre, que la France pourrait abandonner la Tchécoslovaquie, parce que c'est tout son univers qui s'effondre à ce moment-là. Et de toute façon, elle s'effondrera malheureusement au moment de Munich.
Vous avez expliqué qu'il venait d'une famille paysanne et que son ascension s'est faite par l'école. Est-ce que c'est une trajectoire sociale qui est courante à ce moment-là ou une trajectoire sociale plutôt exceptionnelle ?
Non, c'est une trajectoire courante. C'est une trajectoire courante. On se rend compte depuis les éveilleurs du début du XIXe siècle, la promotion sociale se fait de manière accélérée. On est fils de paysan, on est fils de même parfois de serf, de soldat. Je pense à Dobrovski, fils de serf Masaryk. Et on devient personnage très, très important. Ce qui montre bien que la fluidité sociale dans l'Empire habsbourgeois, puis en Autriche-Hongrie, fonctionne très bien. Et ça tient notamment au fait que les Tchèques accordent une importance particulière à l'école. Dans le cas de Benesch, ce qui est très frappant, c'est que sur une fratrie de 8 enfants, 3 d'entre eux vont faire des études supérieures, 2 deviendront instituteurs, les 2 aînés. Et c'est le fait que les aînés, Václav et Wojtyla, est accédé à ce stade qui va faire que Benesch va aller encore plus loin. C'est le dernier des 8, enfants, il ne va pas prétendre seulement enseigner dans le primaire, mais dans le secondaire.
Est-ce qu'il n'a pas un complexe peut-être social ou de classe quand il va dans les années, durant la Première Guerre mondiale, être en contact avec tous ces diplomates qui ont certainement des codes différents, qui viennent de milieux sociaux différents? Comment lui va se comporter? Est-ce qu'il va adopter ces codes-là sans problème ou est-ce qu'il va au contraire avoir du mal peut-être à se fondre dans cette masse?
Alors c'est une excellente question. Il faut dire que quand il part de Prague via la Suisse pour aller à Paris, il a déjà un statut dans la société relativement élevé puisqu'il est assistant de sociologie à l'Université Charles. Donc il a déjà une habitude de la fréquentation des milieux intellectuels pragois, mais il n'est pas tout à fait policé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui va lui permettre d'améliorer son comportement social, c'est la rencontre avec Milan Rastislav Štefánik à Paris, qui est déjà comme un poisson dans l'eau dans tous les milieux décideurs, je dirais, parisiens, qui a des relations à tous les niveaux, parlementaires, ministériels. Et Štefánik va polir ce paysan encore brut de décoffrage qu'est Benesch. Et il va très vite s'assimiler. La correspondance qu'il a avec sa femme à la fin de la guerre est tout à fait émouvante. Il lui dit « Tu ne peux pas imaginer ce qui m'est arrivé, où je suis, qui je fréquente. » Il y a une espèce de sidération de ce bond social qu'il a eu pendant la guerre. Et on peut imaginer un petit assistant de l'Université Charles qui signe ensuite les traités avec l'Allemagne et l'Autriche au sortir de la guerre. C'est une ascension fulgurante. Il va lui en rester vraisemblablement une espèce de certitude qu'il peut tout surmonter, parce qu'il a tout surmonté pour arriver là. Et ça sera peut-être une faiblesse dans sa vie politique ultérieure.
Comment en France il va justement défendre la cause tchéco-slovaque ?
De son séjour à Berlin en 1908, puis d'un nouveau voyage qu'il a fait en Angleterre en 1911, il a acquis la certitude qu'un conflit entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne était inévitable. Donc il anticipe la guerre. Pour lui, la guerre est quelque chose qui va arriver. Il l'écrit dans ses correspondances journalistiques. En revanche, il pense, jusqu'en 1914, que l'Autriche-Hongrie restera à l'écart de ce conflit. À partir du moment où en été 14, l'Autriche-Hongrie s'allie avec l'Allemagne contre les puissances occidentales, pour lui, l'Autriche-Hongrie perd sa légitimité. Une légitimité qui repose dans son rôle d'équilibre en Europe entre l'Allemagne et la Russie. Et à partir de ce moment-là, il suit totalement le raisonnement de Masaryk. Masaryk qui est allé à Vienne, qui est allé en Italie, qui a beaucoup consulté et qui s'est rendu compte que l'Autriche-Hongrie était complètement à la remorque de l'Allemagne. À partir du moment où l'Autriche-Hongrie a perdu cette légitimité, il faut la détruire. Il faut reconstruire. Il faut reconstruire autre chose. Benesch est très surpris par le fait que l'Autriche-Hongrie entre en guerre aux côtés de l'Allemagne. Et il y a cette fameuse rencontre avec Masaryk, pas très loin d'ici, sur le plateau de l'Etna, où les deux se confient et où Benesch accepte de rentrer dans la résistance. Alors, il reste comme agent de liaison pendant un an, et ensuite, il rejoint Masaryk via la Suisse, dans des conditions assez acrobatiques d'ailleurs, et s'installe à Paris, puisque c'est le français qu'il maîtrise le mieux et la société française qu'il connaît le mieux. Alors, à partir de là, pendant son séjour, son propos sera de démontrer, d'expliquer avec de très nombreux mémorandums qui se succèdent que on peut reconstruire l'Europe centrale sur une base nationale, et les événements vont peu à peu lui donner raison, même si les Tchèques de l'intérieur sont extrêmement prudents, bien sûr, jusqu'à l'automne 1917, voire le printemps 1918.
Comment se passe son retour en Tchécoslovaquie en 1918 ?
Il ne rentre pas en 1918 parce qu'il aurait voulu rentrer. Il est séparé de sa femme depuis 3 ans. Elle a d'ailleurs été emprisonnée, hein, condamnée, emprisonnée à Vienne. Et il veut rentrer et il se rend compte qu'il est absolument indispensable pour la conférence de la paix. Donc il va rester. Sa femme va le rejoindre à la fin de l'année 1918, début 1919. Et il va rester jusqu'en septembre 1919, jusqu'à la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye avec l'Autriche. Il a joué un rôle considérable pendant les traités de paix, pour autant que quelqu'un puisse avoir joué un rôle considérable, parce que les événements locaux sont évidemment décisifs dans la construction de la Tchécoslovaquie. Et évidemment, quand il rentre, c'est le triomphateur. Son voyage de retour, c'est une gloire. Il éclipse d'ailleurs celui qui est nominalement le chef de la délégation tchécoslovaque à la conférence de la paix, Karel Kramář, qui lui en voudra toute sa vie, qui va devenir son grand ennemi, pour des raisons à la fois personnelles mais également idéologiques. Et il est vierge en plus de toutes les polémiques politiques qui ont éclaté depuis octobre 1918. Donc c'est quelqu'un qui a un prestige considérable. Il est auréolé, bien sûr, de la confiance de Masaryk. Il a en 1919 35 ans. Moitié moins de Masaryk. Masaryk a 69 ans. Voilà. Il est en 1850. Mais en même temps, il apparaît comme déjà un successeur potentiel, ce qui va évidemment provoquer des jalousies énormes. Il va être très vite la cible d'un certain nombre de forces politiques, de politiques intérieures. Alors, c'est vrai que c'est vraisemblablement le sommet de sa carrière. Ensuite, il va devoir plonger les mains dans la politique intérieure. Et là, son prestige va, je ne dirais pas va diminuer, mais va être compensé par la levée de forces qui lui sont hostiles.
Et c'est avec notre rubrique « Les chapitres de l'histoire » que s'achève l'émission de Radio Prague de ce mercredi. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous a été présenté par Denisa Tomanova. Et pour plus d'informations au quotidien en français sur l'actualité tchèque, rendez-vous sur le site internet de Radio Prague au www.radio.cz/fr. À très bientôt, ahoy !